L'adagio de la 8e symphonie d'Antonin Dvorak sur Radio Classique, Christophe von Dornani était à la tête de l'orchestre de Cleveland. Voici un proche ami d'Antonin Dvorak, Johannes Brahms à présent. Johannes Brahms a beaucoup aidé Dvorak, ils étaient liés par une admiration mutuelle et par une amitié réciproque. Brahms avait beaucoup d'estime pour Dvorak et il l'a, non pas sorti du ruisseau évidemment, mais en tout cas son influence et son aide ont été véritablement décisives dans la carrière de Dvorak. En tout cas, écoutons le troisième mouvement de la sonate pour piano numéro 1 de Brahms avec Marie Kodama.
Thank you.
Marie Kodama, dans le scherzo de la première sonate pour piano de Johannes Brahms. Johannes Brahms que nous retrouverons dans un instant en écoutant son double concerto pour violon et violoncelle. Mais d'abord une petite pause.
Bonjour, c'est Eve Ruggieri. C'est un bonheur de vous retrouver pour partir ensemble vers le soleil de la Sicile. Palerme et ses palais privés, la somnambule de Bellini au Teatro Massimo et le privilège d'un dîner-concert d'exception au Palazzo Francavilla. Autant de superbes moments de musique et d'émotions partagées avec vous.
Palerme lyrique avec Eve Ruggieri, du 20 au 25 octobre. Un voyage événement avec Radio Classique et Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
Entrée des artistes sur Radio Classique.
Thank you.
un des sommets de la musique romantique, le mouvement lent du double concerto pour violon et violoncelle, et orchestre bien sûr, de Johannes Brahms, avec deux solistes magnifiques, Anne-Sophie Mutter et Pablo Ferrandez. C'est Manfred Honeck qui dirigeait l'orchestre philharmonique tchèque. Partons en balade à présent avec Frédéric Chopin, écoutons Seongin Cho au piano.
Thank you.
quatrième ballade de Frédéric Chopin, sous les doigts de Seong Yin Cho. Musique de chambre, à présent celle de Franz Schubert, le quatuor Modigliani nous interprète un de ses quatuors. Le quatuor à cordes numéro 10 de Franz Schubert, c'est le quatuor Modigliani qui nous interprétait cette œuvre. Et tout de suite, nous allons finir ce programme avec une ouverture d'opéra, l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini. Vous la connaissez par cœur, en tout cas la fin galopante. Mais cette ouverture, et à chaque fois cela me surprend, commence pianissimo. Écoutez l'Orchestre symphonique de Montréal et Charles Dutoit. commence peut-être pianissimo, cette ouverture de Guillaume Tell, mais elle s'achève en fanfare. Nous écoutions donc cette musique de Rossini, très célèbre, avec Charles Dutoit et avec l'Orchestre Symphonique de Montréal. Voilà, c'est donc au grand galop que nous courons vers le week-end. Fin de cette émission, évidemment. Un grand merci à Lucille Metz qui m'a accompagnée aujourd'hui. Un grand merci également à Sixtine de Gournay pour la beauté de sa programmation. Je vous souhaite un très très bon week-end de printemps, peut-être de vacances même, pourquoi pas. Dans un instant, Franck Ferron vous parle d'histoire. À suivre, Le Tempo de Pauline Lambert. Bon après-midi à tous.
Madame Figaro, spécial déco est en kiosque. On s'évade et on prend la direction de Minorque ou encore du Brésil pour des escapades dans des maisons de rêve. Partez à la rencontre des jeunes designers français qui comptent et toujours toutes les nouveautés et les tendances du moment. Madame Figaro, spécial déco, en vente actuellement.
Viager, viager. Oh allez, oui, c'est décidé, c'est oui. Oui au viager, mais avec Georges Mabille. La référence viager dans toute la France depuis 20 ans. Mon appartement, estimé à 500 000 euros, pourrait me rapporter un bouquet de 100 000 euros et une rente mensuelle à vie de 2 000 euros tout en restant chez moi. N'hésitez plus, appelez Georges Mabille Viager au 01 43 43 43 77. Dites oui à Georges Mabille Viager, oui à la vie.
Le Parisien, aujourd'hui en France, vous invite à découvrir les plus belles randonnées de France dans son nouvel hors-série. Sentiers côtiers, chemins forestiers, itinéraires au cœur des vignes ou des montagnes, 15 parcours d'exception de 1 à 6 jours avec notre guide pratique. Les 15 plus belles randonnées de France, un hors-série Le Parisien, aujourd'hui en France, chez votre marchand de journaux.
Vous êtes bien avec Radio Classique.
Il est 14h sur Radio Classique. Le point sur l'actualité avec vous, Marc Tédé.
Jamais, pas une seule fois de ma vie, je ne suis intervenu dans une affaire judiciaire. Le Premier ministre François Bayrou dément une nouvelle fois être intervenu dans l'affaire Notre-Dame de Bétarame. Le chef du gouvernement sera auditionné le 14 mai prochain par la commission d'enquête parlementaire sur les violences et les contrôles de l'État dans les établissements scolaires. À l'étranger, la Chine riposte aujourd'hui à nouveau contre les États-Unis avec une taxe à 125% sur les produits américains. Hier, Washington avait annoncé de son côté 145% pour les biens chinois importés aux États-Unis. Et Pékin parle aujourd'hui d'une farce et appelle les Américains à assumer les turbulences économiques mondiales de cette guerre commerciale. Et puis de son côté, la Banque Centrale Européenne se tient prête à intervenir si la guerre commerciale ouverte par les États-Unis menace la stabilité financière. C'est ce qu'affirme à l'instant la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Ses droits de douane prohibitifs ont en revanche été suspendu pour 90 jours pour les autres pays de la planète, hormis la Chine. Donc, des droits qui ont tout de même été maintenus à 10%. C'est le cas des 27 pays membres de l'Union européenne. Le commissaire européen au commerce se rend lundi à Washington pour une réunion avec des responsables de l'administration américaine. L'occasion sans doute de négociations. Au Proche-Orient, l'Arabie Saoudite appelle à une pression maximale à l'instant pour permettre la livraison régulière d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, un territoire ravagé par la guerre. Les Nations Unies, par ailleurs, dénoncent l'impact sur les civils des frappes israéliennes. Depuis la mi-mars, 224 frappes israéliennes ont visé des immeubles résidentiels, dit l'ONU. Pour 36 de ces frappes, les seules victimes étaient des femmes et des enfants. Retour en France où Emmanuel Macron se veut optimiste quant au sort de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, arrêté à Alger cet automne et condamné à 5 ans de prison. Il fait l'objet d'une attention particulière de la part des autorités d'Alger, affirme le président français qui dit attendre des résultats. Le CAC 40, il est en baisse en ce moment de 0,49% à 7091 points. 14h02 sur Radio Classique, c'est le moment de retrouver Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
À la salle Pleyel, le 6 mai 1846, afflue toute une foule élégante. Ah oui, c'est le tout Paris de la monarchie de Juillet qui est là et se presse pour venir entendre un jeune prodige de 10 ans. Et ce petit prodige va interpréter le concerto pour piano numéro 6 de Mozart. On dit d'ailleurs qu'il joue ce concerto avec des cadences qui lui sont tout à fait personnelles. Et puis le concerto numéro 3 de Beethoven, tout ça complété par des œuvres de Bach, Händel, Kalkbrenner et Hummel. Une réputation avantageuse a précédé ce petit pianiste, il faut vous le dire, on ne bruisse que de ses talents et de ses prouesses dans les salons de la capitale, on le dit capable de transposer à vue les partitions les plus complexes, on dit aussi qu'il sait ébaucher de courts morceaux d'orchestre sans jamais avoir reçu la moindre notion pour ce faire. Bref, en ce jour de printemps 1846, Camille Saint-Saëns se présente devant un public qui attend beaucoup. C'est la première fois qu'il se produit en concert. Et ça va être un succès. Succès unanimement salué par la presse et qui lui vaut d'être carrément invité à venir aux Tuileries jouer devant le roi et sa famille, devant Louis-Philippe. 3 ans plus tard, l'adolescent va laisser tomber la littérature et les sciences auxquelles il accordait beaucoup de temps pour se consacrer désormais exclusivement à la musique. Il s'inscrit au conservatoire. Il sait très bien maintenant quel sera son destin.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors il faut vous dire quand même que malgré des dons étonnamment précoces, le jeune Camille, qui est issu de la bonne bourgeoisie parisienne, n'a pas suivi le cursus habituel. Vous aurez compris qu'il a tôt manifesté un caractère bien trempé, on l'a vu réciter le nom des notes à 2 ans et demi, ça fait un peu penser à Mozart, et puis à d'autres prodiges bien sûr. Au célèbre pianiste Zimmermann qui lui joue un La, Camille lance sur de lui... Non, c'est un sol dièse. Ben oui, parce que le piano était désaccordé. Il avait donc raison. À 6 ans, il va faire cadeau d'un adagio à Ingres et le grand peintre, en retour, lui offre un médaillon à l'effigie de Mozart, bien sûr. Au conservatoire, les maîtres qui dirigent ses études d'écriture sont Fromental à Lévy et Charles Gounod, s'il vous plaît, tandis que François Benoît accepte de le prendre dans sa classe d'orgue. Pourquoi ne pas tenter le prix de Rome dès lors ? Vous connaissez le prix de Rome, hein, ce concours qui permet à de jeunes artistes de bénéficier d'un séjour tout frais payé à l'Académie de France, à Rome. C'est très tentant, bien sûr. Puis à l'issue du séjour, vous devez composer une cantate académique pour chœur et orchestre. Tout ça sur un sujet imposé. On dirait que c'est fait pour lui, c'est fait pour le jeune Saint-Saëns, puisqu'il a l'académisme dans les veines, si je puis dire. Eh bien, il échoue au prix de Rome. Et loin de se décourager, il se remet aussitôt au travail. Et il va faire, en 1852, une deuxième tentative, et c'est encore un échec. Jacques Bonnor, qui a écrit une biographie de Saint-Saëns chez Actes Sud, c'était en 2010, Jacques Bonnor nous dit « Ce sera un des éternels mystères de l'histoire de la musique française que le double échec de Saint-Saëns, réputé académique, au plus académique des concours, alors même que les révolutionnaires comme Berlioz ou Debussy y furent récompensés. » Ah oui, c'est comme ça, que voulez-vous. À 20 ans, malgré tout, Saint-Saëns est à la tête d'un riche catalogue qui comprend déjà 2 symphonies, de la musique de chambre et pour piano, une messe dédiée à l'abbé Gabriel de Saint-Méry, où il est nommé en 1853 à la tribune de l'orgue. Ah oui, c'est un organiste dans l'âme, notre Saint-Saëns. En 1861, une classe de piano lui est confiée à l'école Niedermeyer. Gabriel Fauré et André Messager vont compter parmi les élèves de Saint-Saëns, ce que l'on a tendance à dire comme ça, mais dont on ne prend pas toujours l'entière mesure. Alors, dans un premier temps, Saint-Saëns est reconnu comme instrumentiste et à défaut de sortir primé du concours de Rome, il va compléter quelques œuvres significatives dont les premiers concertos pour piano et pour violon dédiés au célèbre virtuose Pablo Sarasate ou la première sonate pour violon et piano dont Proust avouera s'être inspiré pour évoquer la célèbre sonate de Vinteuil qui parcourt toute la recherche du temps perdu, vous savez. C'est Saint-Saëns qui, bien avant César Franck, va introduire le poème symphonique en France. C'est sa façon, si vous voulez, de payer tribut au genre qui a été façonné par Franz Liszt. Hein, Franz